Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et tous une même langue, et ont tous, pardon, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Alors, vous voyez donc, à cette époque, les gens avaient tous la même langue, et Dieu va décider de les séparer. Alors, depuis, si nous regardons l'histoire depuis, eh bien les hommes essayent vainement, par différents moyens, de nouveau se regrouper, de se réunir, afin de vivre en paix, parce que ils se rendent quand même bien compte que se faire tout le temps la guerre, c'est pas très agréable comme vie. Et alors ils essayent de différents moyens pour de nouveau être ensemble, se réunir, les différents peuples. Alors une des solutions, un des moyens que les hommes ont tenté, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est-à-dire annexer tous les pays qui sont aux alentours, former un empire. On a eu Alexandre le Grand, par exemple. Hein. On a eu l'Empire romain. Au départ, Rome, c'était une cité, une ville. Et puis, petit à petit, ils ont annexé les territoires autour parce que ils en avaient assez d'être attaqués par un ou par l'autre. Et le fait d'annexer, de s'agrandir, de se réunir en plusieurs nations qui ne forment plus qu'une, non seulement il y a des intérêts économiques, évidemment, hein, parce qu'on peut utiliser les ressources économiques de l'un ou de l'autre, mais il y a aussi une idée d'être en sécurité, d'être en paix. Alors, il y a eu aussi plein de traités d'alliance entre les nations. On se servait des mariages princiers pour établir une alliance entre un pays et l'autre. Par exemple, le roi de France qui épouse la fille du roi d'Espagne. Alors, ça permettait de favoriser la paix entre ces deux pays qui se sont fait souvent la guerre. Plus près de nous, on a l'OTAN, hein, l'Alliance Atlantique. Alors, une chose aussi qui favorise, disons, la bonne entente, entre guillemets, entre les nations, entre les peuples, sont les échanges commerciaux. Hein, on s'est quand même rendu compte que c'était quand même plus rentable de faire du commerce, des affaires, plutôt que de se faire la guerre. Alors aujourd'hui, on a l'Europe, on a même la mondialisation. Alors après la Première Guerre mondiale en 1919, les dirigeants de l'époque, eh bien, ils ont décidé de créer la Société des Nations. Parce qu'après cette grande guerre qui a fait des millions de morts, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça n'arrive plus. Et alors on a créé la Société des Nations, afin de prévenir, d'éviter une autre guerre. Mais ce sera un échec, parce qu'elle ne pourra pas empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Société des Nations est devenue aujourd'hui l'ONU, Organisation des Nations Unies. Mais on se rend compte qu'elle n'est pas tellement plus efficace parce que aujourd'hui encore les conflits restent nombreux entre les diverses nations et les diverses communautés aussi. Alors aujourd'hui, on pense que si on a des problèmes de relations entre nous, entre les personnes, c'est parce que il y a un manque de connaissance des autres, un manque de connaissance des autres cultures. Et ça à cause notamment de la barrière de la langue. On a des langues différentes aujourd'hui. On habite dans des lieux différents, on a des coutumes différentes, des cultures différentes. Et si on pouvait mieux se connaître, ça permettrait de avoir des relations beaucoup plus harmonieuses entre nous. Et alors on cherche à trouver un moyen pour mieux communiquer, pour mieux se connaître. Et on a même au début du siècle, on a même inventé, créé une langue commune à toutes les nations. Ça s'appelle l'espéranto. Espéranto, donc ça veut dire espoir, donc espoir de paix. Et donc on a créé une langue que tout le monde pourrait apprendre dans tous les pays et qui servirait d'interprète en fait pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais ça n'a pas fort marché. Hein. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est assez marginal. Aujourd'hui, c'est plutôt l'anglais hein, qui est utilisé en tant que langue internationale. Alors, il y a une invention qui va favoriser la communication entre les gens. C'est l'ordinateur, avec bien sûr Internet et le GSM. Alors, il y a eu des créateurs de génie comme Bill Gates, Steve Jobs, qui vont trouver le moyen de faire entrer l'ordinateur qui était un truc lourd et énorme et qui était utilisé uniquement par l'armée ou par des grandes sociétés. Mais ils vont trouver le moyen de faire entrer cet ordinateur dans tous les foyers. Et on va appeler ça un PC, un personal computer. Alors, on va avoir aussi Mark Zuckerberg, qui lui va créer Facebook. Steve Jobs, va mettre ensemble ordinateur, Internet, GSM. Il va supprimer le clavier traditionnel pour le mettre directement sur le téléphone ou sur la tablette. Il va créer justement tous ces machins en i hein, qu'on voit aujourd'hui, les iPhone, iPad, iPod et compagnie, et surtout les tablettes hein, qui ont un succès énorme aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez un nouveau appareil Apple sort, bien, vous voyez la file qu'il y a devant les magasins, avant l'ouverture des magasins, et la file de gens qui ont passé la nuit pour avoir cette nouvelle version de la tablette. Hein. Alors, on pourrait dire... quel progrès depuis la tour de Babel. Mais on devrait dire quel progrès technologique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une langue qui nous permet de nous comprendre, puisque dans toutes les écoles du monde, pratiquement, hein, tout le monde apprend l'anglais. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas communiquer ensemble à cause de la langue. On a Internet qui est un outil extraordinaire pour se documenter. C'est une formidable encyclopédie pour apprendre notamment à connaître les autres, à connaître les autres cultures. On a des moyens extraordinaires avec les réseaux sociaux. En somme, aujourd'hui, nous sommes hyper connectés les uns aux autres par toute cette technologie. Mais est-ce qu'on s'aime plus? Est-ce qu'il y a plus d'harmonie dans les relations entre les gens? Moi, je n'ai pas cette impression. Au contraire, je trouve qu'il y a autant d'égoïsme, si pas plus, autant de méchanceté, autant de haine qu'avant. Si vous prenez, par exemple, le cas des réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut être un outil formidable hein, pour partager avec les autres des bonnes choses. Mais malheureusement, ce que j'entends dire, parce que moi, j'utilise pas ça, mais tout ce que j'entends dire, c'est beaucoup que ces réseaux sociaux sont utilisés pour colporter des commérages, des ragots, pour se critiquer les uns les autres, pour se ridiculiser. Et il y a des personnes qui se sont suicidées parce que on a donné une image d'eux sur Internet, on a envoyé peut-être une photo indiscrète et qui se sont même suicidés. Lorsque vous voyez aussi toutes ces émissions qu'on voit aujourd'hui, ces émissions de télé-réalité, la tendance aujourd'hui, c'est l'indiscrétion, c'est la critique. On dirait qu'on se plaît à se critiquer les uns les autres. Malheureusement, les spectateurs qui regardent cette émission, ben, se complaisent là-dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de dommage, hein. Alors, pourquoi cela ne marche pas? Si on retourne à l'époque de la tour de Babel, donc on se rappelle que les hommes de cette époque, ils avaient la même langue, ils parlaient la même langue, ils avaient la même culture, ils habitaient un même lieu, mais est-ce que ça les empêchait de se disputer, de se faire du mal? Faut pas oublier que avant la tour de Babel, les hommes aussi, ils avaient la même langue, ils se connaissaient très bien, et pourtant Dieu par le déluge s'est résolu à les détruire tellement ils faisaient le mal. Alors c'est vrai qu'ils s'entendaient bien au temps de la tour de Babel, ils s'entendaient bien, mais c'était pour concevoir des projets destinés à satisfaire leurs propres ambitions et non pas pour glorifier Dieu. On pourrait dire qu'ils s'entendaient bien, mais comme des larrons en foire. Alors pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaissent pas bien cette expression, les larrons, ce sont des voleurs. Et alors les voleurs, lorsqu'il y a une foire, lorsqu'il y a un marché, qu'il y a beaucoup de monde, eh bien les voleurs s'entendent entre eux. Alors il y en a un qui va vous demander l'heure, par exemple, et puis pendant que vous êtes distrait, eh bien il y en a un autre qui vous prend votre portefeuille. C'est ça, s'entendre comme des larrons. Et à l'époque, c'est vrai, ils s'entendaient bien, mais ils s'entendaient bien pour faire le mal. C'est pour ça que Dieu les a séparés, pour les empêcher de concevoir des projets, des mauvais projets. Donc nous voyons que avoir une langue commune, pouvoir communiquer, bien se connaître, ça ne suffit pas pour avoir des relations harmonieuses entre nous. Pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Parce que les hommes ne se prennent pas vraiment au nœud du problème. Ils ne s'attaquent pas au nœud du problème. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'établir des relations entre eux. Mais ils négligent et même ils refusent d'établir d'abord une relation avec Dieu. Or, Dieu seul peut nous donner la capacité d'aimer les autres. Ce n'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même, comme dit Jésus, comme demande Jésus, sauf si c'est donné par Dieu. Il faut donc d'abord établir une relation d'amour avec Dieu avant d'être ensuite capable de vivre une relation d'amour, une relation harmonieuse avec son prochain. L'amour du prochain, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment dans notre chair, mais c'est un don de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 13. À partir du verset 1. Alors c'est le fameux passage où Paul parle de l'amour. Alors dans dans ma version ici, Louis II, on dit charité. Mais il faut traduire par amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, c'est vrai que ce passage, il est archi connu parce que on l'utilise beaucoup dans lors de la cérémonie des mariages. Hein, on utilise beaucoup ce passage. C'est vrai que c'est un très beau passage. On dit que, du point de vue littéraire, c'est le plus beau passage que Paul a jamais écrit. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas adapté à la cérémonie du mariage, mais est-ce que c'est de cela que Paul parle? De quel amour nous parle-t-il? Ça, c'est important. Ce n'est pas l'amour que chantait Édith Piaf dans ses chansons. Hein. Vous savez, Édith Piaf, la semaine passée, on a encore commémoré, on fait toujours des commémorations pour ce genre d'événement. Il y a 50 ans qu'elle est décédée, on parle toujours d'elle, hein, de ses chansons d'amour. Alors Édith Piaf, quand vous lisez sa vie, c'était une bipolaire de l'amour. Hein. C'était quelqu'un, aujourd'hui, elle était amoureuse, super amoureuse, et puis demain, ça retombait. Et alors, comme elle ne ressentait plus cette passion pour son partenaire du moment, eh bien elle allait vers quelqu'un d'autre. Elle allait chercher quelqu'un d'autre pour de nouveau repartir dans la passion. C'est pas de cet amour-là dont parle Paul. Même si l'amour entre un homme et une femme, c'est quelque chose de très beau, mais c'est quelque chose d'encore plus beau. Paul parle de l'amour en tant que don de l'esprit. Parce que si vous remettez tout ça dans son contexte, eh bien, Paul est en train de parler aux Corinthiens des dons de l'esprit. Il dit, il y a tel don, il y a tel don, il y a tel don. Et il ne faut pas se sentir supérieur à un autre parce qu'on a tel don. Mais tous les dons sont complémentaires et servent à édifier l'Église. Alors il dit, c'est très bien, vous avez ce don-là, ben c'est très bien, vous avez ce don-là, c'est très bien. Mais moi, je vais vous dire le don le plus important et le plus beau. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est que l'amour qui est donné par Dieu, qui n'est pas l'amour humain, eh bien, c'est le plus beau et le plus utile des dons de l'Esprit. En se repentant, l'homme, en acceptant Jésus comme sauveur personnel, mais d'abord nous échappons au jugement parce que Jésus a pris sur lui toutes nos fautes et nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle. En attendant ce jour où nous serons près de lui, le Seigneur nous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité, afin de mieux nous aider à vivre le temps que nous devons passer sur cette terre. Cet Esprit, il nous donne la sagesse, il nous donne le discernement et il nous donne aussi l'amour des autres. Si nous avons des problèmes relationnels avec notre entourage, la première chose à vérifier, c'est la qualité de notre relation avec le Seigneur. C'est la première chose à vérifier. Lorsqu'on a des problèmes avec son conjoint, avec ses enfants, avec des collègues de travail, avec son voisin, peu importe, avec un frère, une sœur de l'Église. Et la première chose à vérifier, c'est ma relation avec Dieu. C'est comme quand vous avez des problèmes avec Internet, ça marche pas bien, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si la connexion est bien, est bonne, si le signal passe bien. Et bien souvent, si nous avons des problèmes, c'est parce que, justement, cette connexion n'est plus bonne et il faut la rétablir. Mais pourtant, certains diront, mais c'est pas parce qu'on n'est pas converti, c'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on n'est quand même pas capable d'aimer, de faire du bien. Alors, c'est vrai que l'homme a une certaine capacité d'aimer, une certaine capacité d'éprouver de la compassion. Heureusement, parce que les hommes se seraient depuis longtemps entretués, hein. Mais, pour pratiquer l'amour que Jésus enseigne, de la manière dont Jésus enseigne, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant pour aimer son prochain comme soi-même, pour faire du bien à celui qui nous fait du mal. Jésus, il a mis la barre très haut, notamment en disant dans Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Bah écoutez, c'est pas facile à mettre en pratique avec uniquement la capacité humaine qu'ont les hommes d'aimer. Sans l'aide de Dieu, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible. Les hommes, ils ont au mieux, le désir de faire le bien, mais ils n'ont pas la capacité de le faire parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont parfois de bonnes intentions, mais ils n'arrivent pas à les réaliser. Et c'est vrai qu'on voit dans l'histoire de l'humanité, il y a des bonnes intentions, on essaye d'avoir la paix entre les nations, il y a des efforts qui sont faits, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus dans nos relations entre nous. Ça ne marche pas si on n'a pas cet amour qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'homme de réaliser dans la pratique son aspiration à faire le bien et son aspiration à vivre en paix avec les autres. Alors revenons à Steve Jobs, hein. Depuis sa mort, qui est survenue en 2011, il y a 2 ans maintenant, il est l'objet d'un véritable culte. Le monde a été bouleversé par sa disparition. Des millions de personnes ont fait part de leurs émotions. Au moment de sa mort, il y a eu plein de manifestations d'émotions de tout le monde. Et récemment, il y a un film qui est sorti, retraçant une partie de sa vie. Et c'est en regardant la bande-annonce de ce film que m'est venue l'idée de ce message. Toute cette adoration, hein, n'ayons pas peur des mots, tout ce culte qui est autour de cette personne, tout ça parce que les gens disent que il a transformé la vie des gens. Il a transformé la vie des gens. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit la plupart du temps lorsqu'on lit des articles sur Steve Jobs. Il a transformé la vie des gens. Ben moi, celui qui a transformé ma vie, c'est Jésus. Vous, si vous l'avez reçu, celui qui a transformé votre vie, c'est Jésus et pas Steve Jobs. Et c'est lui qui mérite notre louange et notre adoration. Et ça me désole de voir tout ce qu'on fait autour de ces personnages. Au lieu d'adorer Dieu. Mais voyez-vous, les personnages comme Steve Jobs, qui grâce à leur intelligence sont devenus très jeunes, des milliardaires, qui ont connu tout ce succès, eh bien, ils sont devenus des modèles, en particulier pour les jeunes. Ce sont des gens aujourd'hui, ce sont des gens qu'on veut imiter. C'est l'objectif de beaucoup de personnes, et particulièrement des jeunes, c'est réussir comme Steve Jobs. Mais malgré toute leur intelligence, tout leur génie, ils ne peuvent nous apporter une vraie solution. Parce que tout ce que l'homme réussit à faire, c'est solutionner un problème pour en créer un autre. Et c'est toujours la même chose. Par contre, Jésus, oui, lui, il nous apporte une vraie solution. Une solution durable. Tiens, voilà un mot qui est à la mode aujourd'hui. Durable. On parle d'énergie durable. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Eh bien, Jésus apporte une vraie solution durable. Parce qu'elle ne va pas durer uniquement le temps que nous allons passer sur cette terre. Mais la solution de Jésus, c'est une solution éternelle. Alors c'est toutes ces personnes qui étaient très intelligentes, donc suscitent l'admiration du monde. Et on dit de quelqu'un qui n'est pas très intelligent, on dit ce n'est pas une lumière. Alors je ne suis pas peut-être une lumière, nous ne sommes peut-être pas des lumières. Mais en revanche, Jésus dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière du monde. Ben moi, j'aime mieux d'être la lumière du monde que d'être une lumière parmi tant d'autres. Et si nous pouvons briller ainsi, c'est pas par nos propres moyens, mais c'est parce que nous sommes éclairés par Dieu. Parce que cette lumière, elle nous vient de Dieu. Parce que nous sommes connectés à Dieu par Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, a rétabli la communication qui avait été interrompue. Et nous sommes à nouveau reliés au Père. La connexion avec le ciel est rétablie. Un verset pour conclure, et je vais vous laisser avec cela. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Merci et que Dieu vous bénisse.